Aïcha Limbada, bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de la famille et de la conjugalité, et vous publiez La Nuit de Noces, une histoire de l'intimité conjugale. C'est difficile pour une historienne d'étudier l'intimité?
Bonjour. Il y a quelques difficultés à étudier l'intimité parce que par définition, c'est ce qui est le plus privé. Et donc, les traces écrites que laissent les personnes pour documenter ce qu'on cherche sont assez difficiles à trouver parfois. Et en l'occurrence, dans le cas de la nuit noce, ça semblait très compliqué au départ de se lancer dans ce sujet parce que les époux au XIXe siècle ne laissaient pas de témoignages de cet événement très privé, très secret.
Et finalement, vous avez trouvé quoi comme base?
Contre toute attente, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc, il y avait beaucoup de sources imprimées au XIXe siècle sur le sujet du mariage et de la nuit de noces. Des romans, des essais sur le mariage, des images, des cartes postales, des manuels médicaux. Donc, beaucoup de choses. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment des témoignages directs produits par les époux eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment difficile à trouver. Et finalement, en allant jusqu'au Vatican, eh bien, j'ai pu trouver aux archives apostoliques vaticanes des procès que les époux engageaient quand ils voulaient se séparer. C'était une procédure assez rare finalement, mais au cours de ces procès, eh bien, ils devaient expliquer aux juges ecclésiastiques la façon dont le début du mariage s'était déroulé. Et donc, ils expliquaient à cette occasion leur nuit de noces, une nuit de noces souvent compliquée, difficile, des échecs, mais qui sont quand même des récits très intéressants pour comprendre comment les choses se déroulaient.
Vous vous attendiez à la violence de certains des récits que vous avez trouvés?
Eh bien, pas vraiment, parce que je me suis d'abord orientée vers les sources imprimées, qui parfois expliquent les drames de la nuit noce, mais qui souvent aussi évoquent cette première nuit avec beaucoup de légèreté, presque de grivoiserie, avec un peu d'amusement, même quand il s'agit des échecs, on en parle parfois avec amusement, pas toujours, mais voilà. Donc c'était assez équilibré. Et quand j'ai commencé à consulter ce fonds, eh bien, c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de récits de viols conjugaux, de nuits noces qui se passaient extrêmement mal. Et à vrai dire, après la joie de trouver ces archives vraiment exceptionnelles et qui documentaient de manière inédite ce que j'étais en train de chercher, eh bien, j'ai trouvé ça assez difficile parce que c'était vraiment accablant. Et puis voilà, j'avais des centaines et des centaines de pages avec des récits parfois extrêmement difficiles.
Vous avez prononcé le mot de drame. Ce qui marque dans votre livre, c'est qu'on voit bien tous les secrets qui entourent la nuit de noces et l'ignorance des mariés jusqu'au dernier moment. En tout
Oui.
cas, l'ignorance de la femme.
Oui, il y a des femmes qui arrivaient au mariage en étant extrêmement ignorantes de tout. Ça se passait surtout dans les milieux de la bourgeoisie, de l'aristocratie. Et en fait, ces filles, on les a appelées à la fin du 19e siècle de manière péjorative les oies blanches. Et c'était des jeunes filles qu'on éduquait dans l'ignorance totale des choses de la sexualité. Et donc, elles arrivent au mariage sans connaître en quoi consiste une relation sexuelle. Elles ne savaient rien des fonctions sexuelles de leur corps. Et donc, elles arrivaient comme ça dans la chambre, parfois en ayant appris quelques minutes, quelques heures avant qu'il allait se passer quelque chose, mais quoi, on ne leur disait pas vraiment. Et parfois, elles arrivaient sans rien, enfin, sans s'attendre à ce qu'il allait se produire, puisque à cette époque, eh bien, pendant la première nuit, on attend que la consommation du mariage ait lieu. Et donc, parfois, elles ne savaient pas que cette consommation sexuelle allait se produire.
Et on leur dit juste, tu ne dois rien refuser à ton mari.
Voilà, la femme doit obéissance à son mari dans tous les aspects de la vie en fait matrimoniale et également y compris dans la chambre. Et donc voilà, les mères parfois donnaient leurs dernières recommandations en disant il va se passer des choses, il y aura des rapprochements, ne refuse rien à ton mari. Et parfois c'était extrêmement brutal pour elles puisque elles devaient subir des relations sexuelles donc imposées au nom du devoir conjugal. Et elles n'étaient pas du tout préparées à ça. Même parfois, quand elles aimaient leur mari, elles n'étaient pas préparées à ça.
Et lorsque des médecins commencent à s'interroger sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à expliquer aux femmes ce qu'elles vont avoir à affronter pendant cette nuit de noces, ben on donne des conseils aux hommes et pas aux femmes.
Oui, en fait, les médecins, et surtout à partir de la seconde moitié du 19e siècle, s'inquiètent beaucoup de cette question de la première nuit parce qu'ils constatent les traumatismes, les maladies, psychiques, les maladies physiques et la désharmonie conjugale qui peut arriver en fait après une nuit difficile. Et donc, il déplore cette ignorance des femmes, mais à cause d'une morale à respecter, ils ne veulent pas s'adresser directement aux femmes, ou en tout cas pas aux femmes qui ne sont pas mariés. Et donc, ces livres des époux qu'ils écrivent pour donner des conseils sur la vie conjugale et aussi sur la vie intime, eh bien, ils l'écrivent au mari en pensant qu'il faut plutôt sensibiliser les maris à la façon de faire pour brusquer le moins possible les femmes. Et donc, en fait, ils contribuent en quelque sorte à perpétuer l'ignorance féminine puisque, de fait, ils ne s'adressent pas aux femmes quand ils écrivent ces manuels.
La nuit de noces n'est pas toujours un tête-à-tête. C'est même parfois incroyable et incroyablement gênant, cette omniprésence de la belle famille, voire des voisins.
Oui, mais c'est parce que la nuit de noces, c'est un rite de passage qui est très encadré socialement. Elle suit la cérémonie du mariage, donc il y a les invités, les parents, les amis, l'entourage, les voisins, les domestiques qui sont là pendant la journée et qui ne partent pas vraiment la nuit. Ben déjà, il y a le repas de mariage, enfin, il y a le bal de noces. Et donc, il y a des gens qui restent à proximité de la chambre. Il y a beaucoup de rites, des chants pour accompagner les mariés, des interruptions un peu joyeuses, des blagues qu'on fait aux époux, même pendant la nuit. Et c'est vrai que cette présence de l'entourage, elle est quand même critiquée au XIXe siècle, au nom des valeurs bourgeoises, d'une recherche d'une intimité plus grande. Tout au long du siècle, il y a quand même une recherche pour mettre un peu à l'écart cet entourage qui parfois est gênant, mais parfois aussi peut rassurer une mariée qui, quand elle est laissée vraiment seule à seule avec son mari à l'écart de tous, peut être aussi inquiète et livrée un peu à elle-même.
Et c'est à ce moment-là que, dans les milieux qui ont les moyens, commence la tradition de la lune de miel qui démarre juste après le mariage pour éviter un peu ce tête-à-tête gênant avec toute la famille, quoi.
Oui, en fait, la lune de miel, c'est une expression qui désigne les premiers jours heureux du mariage. Et après, il y a une sorte de glissement sémantique et ça désigne le voyage de noces. En fait, dans les milieux les plus privilégiés, on a tendance à organiser à partir du 19e siècle, qui est aussi le siècle de l'apparition du tourisme, on commence à organiser des voyages de noces. Et pour mettre vraiment les époux à l'écart de cette présence gênante de l'entourage, il arrive de plus en plus qu'on fasse coïncider la nuit de noces avec le début du voyage de noces, qui dès lors ne se déroule plus près de la famille, mais soit dans un hôtel, soit dans la couchette du train qui emporte les époux vers le midi ou vers l'Italie.
Dans cette nuit de noces, en tout cas, il y a, vous le dites, une lutte de pouvoir entre l'homme et la femme.
C'est vrai qu'on pourrait penser que la nuit de noces soit décrite comme un moment d'harmonie, de fusion des corps, de rencontre et de connivence entre les époux. Mais, et ça même dans les romans, dans les images, en fait, il y a tout un imaginaire qui produit des récits de nuit de noces comme un moment de confrontation. En fait, le vocabulaire militaire est souvent employé et l'homme doit abattre une muraille. Bon, en fait, il s'agit de l'hymen, mais voilà, la défloration est décrite comme un acte un peu violent. Parfois, même le vocabulaire de la mort est employé. Et tout ça, ça forge aussi les pratiques, puisque les époux qui ont, ou les maris qui ont lu, en fait, ces descriptions, par exemple, dans les romans, eh bien, ils arrivent avec ce genre de représentation dans la chambre. C'est vrai qu'ils abordent cette relation sexuelle comme un conflit. Et en plus, le mari, lui, doit prouver sa virilité. Et donc, cette virilité, elle est triomphante quand il a réussi à vaincre à la fois la pudeur de sa femme, mais aussi cette barrière, cette hymen au moment de la défloration, ce qu'on appelle la défloration.
Pour en revenir aux procédures canoniques dont on parlait au tout début, celles que vous citiez, il y a plus d'un siècle, cela montre que quand même il y a des femmes qui ont cherché à ne plus subir la domination des hommes.
Oui, alors c'est un peu compliqué parce que les procédures matrimoniales canoniques, c'est, elles sont entreprises pour se séparer. Donc les époux pouvaient avoir des motivations variées pour se séparer et prouver la non-consommation du mariage ou prouver qu'il y avait un défaut de consentement, c'était une façon d'accéder, enfin d'obtenir la séparation. Donc Ces témoignages, ils étaient produits dans un but bien particulier, qui n'était pas dénoncer les violences au départ. C'était plutôt un moyen de pouvoir se séparer et de ne plus vivre dans le mariage. Mais c'est vrai qu'à l'occasion de ces témoignages, les femmes livrent la façon dont elles vivent les choses, et même les maris expliquent aussi les mariages arrangés, une intimité qui est subie, des violences aussi parfois qui sont subies. Et donc, en fait, cet espace du procès dans les tribunaux diocésains devient aussi un espace de libération de la parole, puisque les femmes sont entendues et elles n'ont pas vraiment l'occasion, à d'autres moments de leur vie, de se plaindre de cela.
Vous vous arrêtez au début du XXe siècle. Est-ce que c'est parce que, passé cette date, la nuit de noces a moins d'intérêt ?
Alors, à la Belle Époque, la nuit de noces est encore très très présente dans beaucoup d'écrits, mais c'est vrai que le nombre de mentions de nuit de noces diminue à partir des années 1915-1920. Et ça montre aussi que l'enjeu de la nuit de noces est peut-être un peu moins important, parce que à cette époque-là, à partir de la Belle Époque, il y a une évolution des mœurs avec des femmes qui ne vont pas tout le temps attendre le mariage pour avoir leur première relation sexuelle. Et donc l'enjeu de la première fois est un peu avancé. Et donc il y a une combinaison de facteurs qui fait que la nuit de noces paraît un peu moins problématique à partir des années 1920. Elle le demeure malgré tout, et puis il y a quand même encore une injonction à garder sa virginité qui perdure, même si dans les pratiques, il y a quand même une évolution.
Virginité qui, on le voit bien dans votre livre, est vraiment au centre de l'intérêt de la nuit de noces.
Oui, parce que la virginité des femmes, c'est une obsession au XIXe siècle. Il y a un idéal de pureté, il y a un culte voué aussi à la Vierge Marie. Et puis, cette virginité, c'est une façon aussi pour les hommes de contrôler le corps de la femme.
Aïcha Limbada, merci. Je rappelle le titre de votre livre, La nuit de noces, une histoire de l'intimité conjugale, paru aux éditions La Découverte.